musique.
Carabanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Tours par exemple, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Il va être question de musique aujourd'hui puisque nous recevons deux membres du groupe Electric Vocuila. Alors Maxime Bobo, le saxophoniste, claviériste et compositeur du groupe, et Boris Rosenfeld à la guitare. Bonjour les gars.
Salut.
Bonjour.
Eh ben, ma première question, alors je signale quand même qu'on a écouté Combinovaci.
Combinovaci.
Bon, merci. Extrait du dernier album Combino Splito en début d'émission. Alors ma première question, c'est j'aimerais bien que vous vous présentiez et que vous... Alors, ça permettra aux auditeurs d'identifier vos voix. Et puis aussi, quelle a été votre formation musicale? Peut-être... Allez, Boris.
Alors moi je m'appelle Boris, donc je joue de la guitare. J'ai commencé à 16 ans en écoutant du rock, du blues, etc. Après j'ai fait du jazz, je suis allé à l'école jazz à Tours. Et puis maintenant je joue dans Electric Vocuila, donc. Et puis j'ai d'autres groupes de rock à Tours comme Yacht Club ou Ranco, qui sont des groupes de rock un peu libres, un peu influencés par plusieurs choses. Et puis voilà, je navigue entre ces trois groupes aujourd'hui, quoi.
Ok, Maxime.
Et moi je suis... Donc ça, non, ça tu l'as déjà dit. J'ai commencé la musique petit en école de musique en faisant du sax. Et après le bac, je suis allé faire une école de jazz à Chambéry. Ensuite, je suis passé très brièvement à Tours. Et j'étais passionné par le free jazz et les musiques improvisées. Donc, je voulais surtout faire ça. Donc, je suis parti quelques années à Berlin. Et puis, petit à petit, là-bas, j'écoutais beaucoup de musique traditionnelle, de musique africaine. Et puis, toujours pas mal de jazz et de free jazz. Et c'était le début de Vocuila en duo avec le batteur Étienne, qui est pas là aujourd'hui.
Ouais.
Et puis ce groupe-là a donné un trio et puis l'électrique avec lequel on est là aujourd'hui.
On va développer, on va y revenir parce que en fait, oui, effectivement, à la base de avant Electric Vocuila, il y a Vocuila, donc un duo.
Oui.
Et j'aimerais que tu nous expliques comment ça s'est formé et quelle était l'idée de départ.
Alors, c'était une rencontre avec Étienne, le batteur. Donc, au début, on faisait plutôt des morceaux improvisés.
Ouais.
Et moi, je jouais beaucoup de trucs très répétitifs. J'écoutais pas mal de musique traditionnelle, notamment africaine. Et en fait, c'est devenu des compositions, quoi. En réécoutant les enregistrements de sessions improvisées, ouais, on a commencé à faire des morceaux à partir de ça.
Ouais, ça part de l'improvisation, c'est ça.
Ça part de l'improvisation, ouais. Ouais. C'était vraiment au début très improvisé. Mais souvent avec un truc de pulse, un peu free swing, des trucs comme ça.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est l'improvisation telle qu'on l'entend dans le jazz, c'est-à-dire des grilles, machin, ou est-ce que c'est ce qu'on a plus l'habitude d'entendre maintenant, l'improvisation dite libre?
Non, c'était plus plutôt musique improvisée libre.
Ouais. Ouais, ouais.
Mais il y a une époque où on faisait des trucs de son, des trucs très répétitifs, ou juste avec un drone, des trucs comme ça, mais ça, c'était un peu dans la recherche. Et c'est en faisant le tri, en fait, en réécoutant des enregistrements de session, ce qu'on préférait finalement, c'était des trucs assez répétitifs, assez mélodiques, soit dans des trucs un peu free, ou il y a eu des sessions où j'avais un petit clavier, on a commencé à faire des trucs avec des rythmiques, et puis ça, on a commencé à reproduire ça, à s'en servir comme composition, quoi.
Ouais. Et donc, Étienne, le batteur, tu l'as rencontré où ?
Il était à Tours.
Ouais, c'est ça,
mais il était à Tours, on s'est vu à Tours. Ensuite, moi, quand j'étais à Berlin, il est venu 2-3 fois. On a fait des petites tournées en Allemagne, quoi.
Et donc, vous avez fait un disque, je crois.
Ouais, on a fait un disque en duo.
Ouais.
Où du coup, il y a que 5 morceaux, mais on entend des trucs très free jazz avec des motifs répétitifs qui partent sur de l'impro. Et puis il y a 2 morceaux un peu de tourne où c'était les débuts un peu où on s'inspirait de trucs de la Nouvelle-Orléans, des trucs un peu africains.
Ah oui, d'accord. On reviendra aussi sur les influences. Je propose qu'on écoute un extrait du duo. Ça va être assez court. Mais ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que signifie Vocuila?
Alors Vocuila, en fait, ça se prononce Vocuila, et c'est un mot allemand qui veut dire nuque longue. En fait, c'est la première syllabe de plusieurs mots, donc c'est vorne kurz hinten lang, donc c'est court devant, long derrière. Donc c'est un mot qu'on a entendu à Berlin par hasard, qui sonnait pas très allemand, le mot nous a plu, voilà. C'est toujours compliqué de trouver dans le groupe.
On écoute le morceau Nuo. Voilà, c'était le duo Vaucuila. Je vais continuer à dire Vaucuila. Moi, je vais pas le prononcer à l'allemande. Alors, ça, c'est le duo. On voit bien que c'est quand même une influence free jazz, indéniablement. Et effectivement, les tournes dont tu parlais. J'aimerais que tu nous expliques les diverses extensions de ce duo. Puis on parlera d'électrique Vaucuila après, mais les autres extensions, le trio, le...
Et ben en fait ça, ensuite le bassiste Jean-Jacques Guachon nous a rejoint, il était à Paris à l'époque, on a fait une petite tournée avec lui, donc le duo est devenu trio, il était basse électrique ou contrebasse, et donc au début on mélangeait des morceaux comme ça, très free jazz, et puis des trucs avec des rythmiques plus dansantes, disons. Et ensuite, on était un peu limité pour développer les morceaux électriques, dansants, à trois. Donc on a décidé de monter un quartet avec un guitariste pour plus développer ces morceaux-là. Et puis conserver le trio pour rester dans une veine plus free jazz acoustique.
Ouais. Et voilà. Alors après, il y a aussi un duo de guitare.
Il y a eu un guitar band où on a fait une formation à deux guitares. Ouais. On a fait, je sais pas, une dizaine de concerts, je dirais.
Ouais.
Et ça a pas perduré. On est
C'est la question que je vais te poser de toutes ces formations. Est-ce que le duo continue par exemple?
Non, le duo on a arrêté. Une fois qu'on a monté le trio et l'électrique, on a arrêté.
Ouais.
Et le trio, il est un peu en pause depuis 2-3 ans. Et on va le remonter l'année prochaine.
D'accord, ah ouais. Ouais, ok. Et est-ce qu'il y avait des influences similaires pour chaque formation?
Oui et non, c'est-à-dire que la composition des morceaux, je dirais qu'elle est assez proche autour de thèmes majeurs, assez répétitifs.
Ouais.
Après, non, puisque l'électrique, c'est vraiment parti sur des rythmiques. Au début, il y avait des trucs un peu de New Orleans, des trucs free funk, un peu comme James Chance ou Ornette Coleman, le prime time.
Ouais.
Et puis, petit à petit, des influences de plus en plus africaines qui sont un peu aiguillées depuis 2-3 ans sur des musiques malgaches et congolaises en particulier.
Ah, d'accord, ouais.
Et le trio, non, on est resté dans une veine assez free jazz, post-Hornet, quoi, en gros. On cherche un peu notre patte là-dedans.
Alors, j'ai lu un truc qui m'a intéressé, moi, sur Internet. Je crois que c'est issu d'un journaliste, je sais plus si c'est un canard ou quoi. On disait de vous, Vaucuila a su ne jamais trouver sa voix. Et est-ce qu'il y a de ça dans la multiplication des formes que vous avez adoptées?
Je pense qu'à l'époque, ouais, il y avait pas mal de directions possibles. Après, je dirais que c'est moins vrai aujourd'hui. Là, le quartet, on est vraiment... là, ça fait depuis le dernier disque, on s'est vraiment focalisé sur certains types de rythmiques et de formes de morceaux. On est plus dans un truc avec beaucoup moins de ruptures, on cherche plus des développements tuilés, des choses assez fluides.
Ouais. Donc oui, parce que mon autre question c'était, est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes, des formes à l'infini ou...
Oui sûrement, mais après...
Donc il y a Big Band ou...
non, je pense pas. Non, moi je suis, en tout cas personnellement j'ai envie de creuser un peu un son, un groupe à 4 avec la même instrumentation et puis... Parce que sinon, effectivement, on peut jamais s'arrêter. J'ai un peu l'impression de toucher à tout et de pas vraiment creuser un truc, quoi.
Non, mais c'est pour ça que je citais la phrase du journaliste. Vaucuila a su ne jamais fixer. Ouais. Ça peut être aussi une ouverture à justement pas se fermer à des trucs.
Non, c'est vrai.
Ouais. Et alors, on va écouter un extrait du premier album. Donc c'est l'album éponyme Electric Vaucuila. Je voudrais savoir comment il s'est fait, dans quelles conditions techniques et économiques aussi, ça nous intéresse.
C'était complètement autoproduit sur des sous de tournée, je pense, sur des sous qui nous restaient de petits concerts, et puis peut-être qu'on a dû y mettre de notre poche. Et c'est le guitariste qui nous a, c'était pas Boris à l'époque, c'est le guitariste Gabriel Bouillon qui nous a enregistré chez lui. Et on a enregistré en 2 jours, et puis voilà quoi, c'était assez express.
Alors on va écouter le morceau Porto Shuffle. J'ai pas de questions du tout à poser à propos de...
Eh ben très bien.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à Electric Vocuila. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos influences. J'aimerais qu'on détaille un petit peu. Et tu parlais notamment de... Tu as évoqué la musique de la Nouvelle-Orléans. Est-ce que tu pourrais préciser, c'est la musique de Marching Band. Qu'est-ce que ouais. c'est exactement?
Bah, c'est le second line, c'est la musique de, ouais, des groupes de rue, Marching Band, la Nouvelle-Orléans, où il y a une rythmique un peu particulière qui fait partie de la musique de la Nouvelle-Orléans. Et du coup, bah, un morceau comme ça, c'est pas mal inspiré de ça. Ouais. Il y a plein de fanfares qui marchent pas mal maintenant, qui tournent en Europe, qui sont connus, ouais. Les Meters par exemple, qui sont pas mal connus, où on s'inspirait pas mal de rythmiques comme ça.
Bah, parce que c'est vrai que quand on parle de Nouvelle-Orléans, on a un style, tu sais, je sais même plus comment faire, mais.
Le New Orleans, plus vieux, ouais, mais non, mais il y a la musique de rue, ou qui a un côté un peu funk en fait. Peut-être plus souple, plus relâché que. Ouais. Et du coup, bah ouais, au début, c'était dans les rythmiques dont on s'inspirait pas mal. Et le truc un peu free funk aussi. Ouais. Et puis.
James Chance,
Hornet.
Tu as cité là, ouais.
Et après, bah, dans l'évolution du groupe, c'était aussi le fait de découvrir d'autres musiques plus contemporaines africaines.
Oui, voilà.
Ouais. Moi, j'ai eu vraiment des coups de foudre avec le Tsapik, par exemple. Ouais, bah, la musique malgache.
Oui, c'est ça. J'ai vu le High Life, la Jojo Music. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où ça vient,
pour notre connaissance à nous, elle vient de YouTube, de recherche sur YouTube. Mais la Jojo Music, c'est Nigeria. C'est j'aurais pu t'envoyer d'autres trucs, mais ouais. C'est des trucs qu'on découte sur Internet et puis on tripait sur des morceaux.
Mais est-ce que c'est la forme musicale est-ce qu'il y a une rythmique,
L'instrumental, le juju music par exemple, il y a plusieurs percussions, il y a des tamas, des tambours qui modulent un peu. Comme les trucs on connaît ça par exemple dans le balar, les musiques sénégalaises, où il y a des petits tamas à ASL. Là. Ils ont d'autres tamas, médium et grave. Il y a de la guitare slide, je sais jamais si c'est de la pédale steel ou de la lap steel aussi. Il y a un truc un peu psychédélique, c'est des morceaux de 20 minutes un peu qui sont assez. Il y a des trucs vraiment mortels quoi. Il y a un morceau que je t'ai envoyé qui est inspiré de ça là, Juju Boogie.
Ouais, ouais, ouais.
Le début il est un peu comme ça, il a un côté un peu planant comme ça. Et High Life c'est plutôt le Ghana, c'est une des musiques qui a influencé l'afrobeat et tout, donc c'est des trucs qu'on écoutait comme ça sur des disques ou sur internet.
Vous n'avez pas de connaissances particulières, pas de voyage là-bas, pas de...
Non, mais jusqu'à la musique malgache, non, c'était vraiment le Tsapik. Du coup, on a rencontré Damil, qui est un grand guitariste de Tsapik, mais c'était la première fois qu'on avait vraiment un contact direct avec une musique dont on s'inspirait.
Mais alors, la question, c'est, vous venez du jazz quand même, plus ou moins, et qu'est-ce qui fait que vous passez des écoles de jazz, d'apprendre les gammes et tout ça, à la musique africaine? Qu'est-ce qui vous pousse à...
Bah après, c'est même le jazz, je veux dire, on écoute des disques, on tripe sur avec Internet, il y a un moment où j'ai réécouté plein de trucs en vidéo, de triper, et puis il y a un truc de recherche sur Internet où on découvre plein de trucs. Du coup, il y a le même rapport avec d'autres musiques. En fait, on découvre d'autres musiques qu'on n'a pas étudiées dans un cadre institutionnel, mais en fait, à force d'écouter, on a des trucs dans les oreilles. Ça devient des sources d'inspiration, quoi.
Ah, mais tu reconnais que c'est pas la voie normale. Enfin, normal. Oui, normal.
Mais c'est un peu une passion. Des fois, on a des coups de foudre sur des groupes, des musiques, et puis peut-être que Boris, toi, en ayant fait du jazz et du blues, t'as des groupes contemporains sur lesquels tu tripes et ça t'inspire dans ton jeu et groupes, quoi.
Ouais, bien sûr. Bah, le rapport à Internet, il est quand même. C'est incroyable, quoi. Moi, il n'y a pas une semaine où je découvre pas un truc super, donc. C'est vrai que ça peut, à tout moment, tu peux te dévier un peu d'une route qui te semblait assez évidente.
Ouais.
Et puis, puis après les rencontres aussi, j'ai rencontré Maxime.
Entre nous aussi de jouer ensemble, de se faire écouter des trucs.
Ah ouais, tu construis aussi des histoires avec d'autres gens, quoi. Du coup, rien n'est vraiment prévu, quoi, en fait.
Ouais, ouais. Alors, moi, la question que je me posais, c'est y a-t-il. Parce que j'en connais des gens qui éprouvent ça ces derniers temps. Y aura-t-il une certaine lassitude par rapport à une musique dite cérébrale ? Alors moi, je conteste un peu le fait que ce soit...
Par rapport au jazz, tu veux dire ?
Ouais, par rapport au jazz, aux musiques improvisées, qui pousseraient certains musiciens comme vous et d'autres, hein, vous n'êtes pas les seuls, vers des musiques plus joyeuses, voire festives.
Il y a peut-être certains musiciens, certains groupes de jazz ou de rock ou d'autres musiques où c'est un peu cérébral, mais c'est pas, hein, je dirais pas que c'est un truc général du jazz.
Après, le truc dans l'impro, c'est quand même un truc corporel et qui est hyper.
Quand on rentre dans la musique, ça peut être très physique.
Physique, c'est pas dansant, évidemment, ça n'a rien à voir avec le truc de Tzapik, mais voilà.
Le truc de son, c'est pas forcément cérébral. Ouais. Après, oui, il y a peut-être des trucs de jazz moderne où c'est, il y a un peu des jeux, ouais. Je sais pas, d'intervalles ou machin, où ça peut donner cette impression. Mais après, moi, c'est plus un truc aussi de d'époque où je sais que j'ai, je suis vraiment un fan d'Ornette, quoi. J'ai pas eu de coup de foudre dans la scène musique improvisée aussi fort.
Ah oui.
Et de la découverte de certains trucs comme le Tzapik, par exemple, ou certaines musiques africaines où vraiment ça m'a vraiment marqué. Ouais. Et en plus, c'est une musique contemporaine et j'ai pu voir un petit peu un concert qui existe encore. Il y a aussi une envie de pas être toujours en référence à la musique des années 60, que ce soit du free jazz ou du funk ou. Et puis d'être dans un truc un peu qui existe aujourd'hui, des musiciens qu'on peut rencontrer, ça a été marquant, je pense.
Oui, c'est clair, les musiciens morts, bon voilà. bien sûr. Mais après, moi, tu as raison, Boris. Ici, pour recevoir des musiciens, il y a toutes les occurrences possibles, à savoir dans la musique improvisée, ça peut être cérébral, mais il y a des gens qui sont très. Qui ont des théories, c'est super, hein, vraiment. Qui travaillent le son, qui ont des histoires comme ça. Puis, comme tu dis aussi, ça peut être très, très corporel. Il n'y a pas de. Moi, ce que je disais, c'est que. Je dis ça parce qu'on parle de musique difficile parfois. Ton émission, il y a musique difficile. Moi, je trouve que c'est pas tellement difficile d'écouter de la musique. Et quand même, dans les vies qu'on vit, certains d'entre nous, c'est quand même relativement plus facile de. D'écouter de la musique, d'aller au boulot, enfin,
Non, mais après, c'est subjectif, c'est une histoire d'intérêt, de plaisir qu'on a à écouter ou à jouer à telle musique.
Et alors, dans un des trucs qui caractérise votre musique, c'est les tournes, vous appelez ça les tournes, ou les boucles, on va dire. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à voir avec la trance?
Oui, sûrement. C'est pas. Moi, je me méfie un peu du terme trans parce que ça peut être aussi. Enfin, il y a un truc de changement d'état, des fois connoté à des trucs. Religieux ou je sais pas. Nous, c'est sûr qu'on n'est pas. On n'est pas vraiment là-dedans, mais. En tout cas, il y a un truc physique, quoi, d'être pris par la musique, et notamment la répétition et les variations de tempo. Il y a des petites choses qui me mettent dans un état un peu différent, mais.
Ouais.
Justement, on a des. Enfin, ça peut aider dans un rapport plus physique à la musique et à ce que les idées musicales soient directement physiques sur l'instrument. Quand on entend un truc, on a envie de jouer un truc, de provoquer quelque chose dans la musique.
Mais et justement, alors, est-ce qu'il y a une part d'improvisation qui pourrait être justement par exemple la durée des morceaux, est-ce qu'elle est déterminée ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans votre musique en live par exemple?
De moins en moins, quand même.
Y a plus d'improvisation dans le sens d'un solo ou une partie complètement improvisée. Après, il y a pas mal de trucs qui sont, je dirais, semi-écrits. C'est-à-dire qu'on a tous un petit réservoir de thèmes, d'idées, de riffs, on a nos cheminements, mais c'est pas cyclé. Chaque thème, chaque riff, on ne sait pas combien de temps il va durer. Du coup, là, on a une idée approximative de la durée du morceau, mais c'est pas. Suivant ce qui se passe, comment ça se passe avec le public, il y a des parties de morceaux qu'on peut refaire, des thèmes qui peuvent revenir ou pas. Ça se joue plus là-dedans, quoi.
Alors, j'ai vu que Maxime, que tu jouais de l'orgue.
Ouais, je joue du clavier.
Du clavier. Et est-ce que tu joues des deux instruments dans. Tu vas passer dans un même morceau d'un instrument à l'autre ou tu...
Certains morceaux, ça passe de l'un à l'autre. Et cela, depuis quelques mois, je joue un clavier basse aussi.
Ah oui,
donc il y a des morceaux à deux guitares où je fais la basse au Rhodes, c'est un Rhodes
basse. Parce que le Jean-François Riffaud joue également de la guitare.
Guitare et basse, mais du coup c'est à nouveau le bassiste. Ouais, on a rechangé de bassiste depuis.
Ah d'accord. Voilà. Ok. Oh, voilà. Oui. Et je voulais préciser sur l'histoire de musique africaine. Bon, alors donc j'ai compris que vous intéressiez à ça sur YouTube, mais est-ce que du coup vous faites des recherches de l'ordre, tu sais, un truc qui serait plus de la musicologie, ouais, de l'ethnomusicologie.
Bah, on vient de rencontrer un ethnomusicologue à midi, donc c'est...
Alors, bah voilà.
Rendez-vous avec un ethnomusicologue.
Bah, un petit peu, ouais, on essaye de ce qu'on peut glaner comme information sur les contextes dans lesquels ces zikla existent et le sens qu'elles ont, parce que souvent, c'est pas une musique de spectacle comme ici où c'est souvent lié à des éléments traditionnels, c'est intéressant de savoir à peu près se faire une idée vague, je veux dire, par la lecture ou les vidéos du contexte dans lequel c'est joué.
Mais ça, vous commencez, vous n'avez pas fait ce travail-là avant ou...
Je dirais qu'on n'a pas vraiment fait de travail de... Non, c'est un peu la lecture comme ça, mais...
C'est que là, la musique s'affine aussi avec le tsapik. Maintenant, il y a vraiment... Le groupe est lancé sur le tsapik,
j'aimerais bien que tu me dises...
C'est une musique de Tuléar, à Madagascar, qui est vraiment dans la région de Tuléar, là-bas. Ouais. Et qui est vraiment... c'est des rythmes binaires assez rapides. Oui. Et puis la guitare est un rôle un peu de lead, quoi. Ouais. Puis il y a des chants maintenant, enfin il y a.
C'est une musique vraiment très spécifique à cette région de Tuléar et qui est assez récente, quoi.
Est-ce que Juju Boogie, par exemple, c'est
ça? Ah bah Juju Boogie, ça finit, c'était le tout premier truc qu'on faisait, ou la toute fin. La toute fin, c'est une rythmique sapi, quoi, la dernière partie du morceau.
On va écouter ça, mais j'ai une petite dernière question avant. je voudrais savoir, comme vous jouez de la musique inspirée des musiques africaines, vous est-il arrivé de jouer devant des connaisseurs de ces musiques-là, des puristes du tsapik, par exemple? Et je voudrais savoir, si c'est le cas, quel retour...
On a joué devant Damil, le guitariste. Lui, il nous a invités pour
sa sortie d'album. On a une partie du public qui danse, on ne sait pas forcément si c'est des... Si c'est des spécialistes de telle ou telle musique, mais...
On a joué une fois devant Damil, ça c'était quand même assez marrant de jouer devant le... Un peu le... Enfin, un super guitariste de cette musique-là, quoi.
Il n'y a pas de... Comment dire, de sacrilège, quoi. On vous dit pas, oh là là, qu'est-ce que vous faites?
Non, mais il est plutôt encourageant. Je pense que c'est un petit peu bizarre pour eux de voir qu'on s'inspire beaucoup de leur musique, mais...
Bon, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Quelques conseils, quoi.
On écoute Juju Boogie. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne, radio-libertaire.net à Tours. Et justement, j'aimerais savoir si, Maxime, Boris, vous êtes lié d'une manière ou d'une autre au Petit Faucheux à Tours, programmé par l'excellent Renaud Baillet. Est-ce que je me fourvoie quand je dis ça?
On le connaît bien, Renaud. C'est un très, très bon programmateur qui accueille très bien les groupes.
Ah ouais.
Et qui soutient beaucoup les musiciens tourangeaux comme nous.
Bah justement, je voudrais savoir si un lieu comme ça permet-il d'animer la vie musicale d'une ville. Et est-ce qu'il est indispensable d'avoir un lieu comme ça dans une ville?
Il en faudrait plein, quoi.
C'est tenu par des gens comme, quand c'est géré aussi par des gens comme Renaud ou Françoise, qui sont Françoise Dupas,
la directrice.
La directrice. Qui sont vraiment proches des groupes locaux, c'est génial parce que la salle est quand même super. C'est une grande salle par rapport. C'est une salle de jazz, c'est une grande salle. Quoi.
C'est pas une scène nationale, non? Je sais plus.
C'est une SMAC?
Non, c'est une SMAC jazz, un ancien théâtre.
Ouais. Et puis peut-être des gens aussi qui s'intéressent, parce que dans les scènes nationales, si tu veux, tu peux voir Jane Birkin aussi. Hein.
Ouais.
C'est ça. Ouais. C'est, peut-être que là, il se trouve qu'il y a des gens quand même qui sont. Je sais que Renaud, on le voit régulièrement dans tous les festivals.
Ouais.
C'est vraiment orienté jazz et musique improvisée, c'est un peu l'histoire du lieu.
Ils aiment vraiment la musique et puis ils font pas semblant de s'intéresser aux groupes locaux. Enfin, ils font pas ça uniquement pour. Pour les histoires d'argent ou de sub de je sais pas quoi.
D'ailleurs, je voulais savoir si le festival Superflu, ça
existe encore.
J'imagine que vous y avez joué.
Non, alors, peut-être l'année prochaine, on va voir.
D'accord.
C'est plus rock et musique indépendante. Nous, on a un peu catalogué jazz, un peu avec du saxo.
C'est marrant parce qu'Antoine Vierre nous disait ça il y a quelques semaines. Pourtant, lui, dans Hippidictate, on ne reconnaît pas trop qu'il joue du saxophone, mais dès qu'il y a un saxophone.
Fou. Ouais. En fait, c'est que les trucs dont tu parlais tout à l'heure, il y a ça de tous les côtés, en fait. Parce que si tu fais un truc. Dansant, c'est pas vraiment sérieux pour des gens qui considèrent que la musique sérieuse ça doit être autre chose. S'il y a du sax, ça peut pas être du rock ou ça peut pas être. Il y a plein de gens qui vont de toute façon cataloguer tout n'importe quoi.
C'est effarant. Est-ce qu'il y a d'autres lieux plus officieux? Je pense à des petits cafés ou des lieux comme ça. Il me semble que Renaud.
À Tours?
Alors
à Tours, honnêtement, il manque un club, quoi. Il n'y a pas un vrai club. Tu vois, je sais pas, un truc avec une vraie scène, une jauge, je sais pas, de 100 personnes, un truc. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un ou deux lieux comme ça à Tours. Mais il y a 2-3 cafés. Il y a le Balkanique qui est tenu par.
Les Colettes qui a fermé et qui vient de rouvrir.
Ouais.
Si tu connais, je sais pas.
Renaud m'en avait parlé.
Il y a quand même 2-3 lieux qui sont super pour les. Les concerts, quoi.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la scène tourangelle? Quels sont les musiciens, les formations dont vous pourriez conseiller à nos auditeurs l'écoute?
Nous on peut parler surtout du Capsule Collectif.
On en parlera après.
À des groupes en dehors du collectif. Les groupes des copains, Jim Ballon par exemple. Un groupe de hip-hop que j'aime bien, moi, qui s'appelle Dans la Mercedes Nacré, ce qui est super.
On connaît surtout les groupes autour de nous, soit on joue, soit c'est des copains, quoi.
On va parler de Capsule Collectif tout de suite après avoir écouté un extrait du second album, on va en parler aussi, de Electric Vocuila, qui s'intitule Marquise, et le morceau c'est Civil.
Thank you.
Voilà, c'était Civil, un extrait de l'album Marquise. Alors, pourquoi Marquise ? Est-ce que ça a un rapport avec les îles Marquise ?
Alors, Marquise, je ne me rappelle plus trop. En général, moi, j'aime bien les titres qui ont plusieurs significations possibles. Donc, ouais, il y avait... Je ne sais plus pourquoi c'était Marquise. Les îles Marquise.
La Pompadour.
Ah, une Marquise, ah oui, c'est un truc de toiture aussi.
Ah oui,
de
oui,
véranda.
Ouais. La Pompadour.
Et je sais plus, il y avait plusieurs...
Je ne sais pas qu'on bossait dans le bâtiment un peu, parce que...
C'est vrai ?
Non.
Et alors, bon, donc cet album Marquise est sorti sur le label Capsule Record. Donc
tout à fait.
Ah oui. Et donc, nous y voici. Qu'est-ce que le collectif Capsule ?
Bon, déjà, on était très honorés de pouvoir le sortir sur ce label qui est déjà assez c'est légendaire. Non, mais c'est que c'est le label du collectif dont on fait partie, qui est né il y a quasiment 10 ans, je crois. Et autour de Vokuila, et il y avait trois autres groupes à l'époque. Et puis petit à petit, il y a d'autres groupes qui sont greffés. Là, il y a une douzaine de groupes à peu près. Et donc c'est plutôt né autour de musiciens qui avaient fait du jazz ou qui avaient fait des études de jazz. Et puis maintenant, il y a nous. Il y a des groupes qui sont plutôt pop-rock, indé, un truc un peu chanson.
Donc c'est des esthétiques très différentes. Parce que ma question, c'était quel est l'objet du collectif ? Est-ce que c'est une histoire d'individus, de musiciens, ou est-ce qu'il y a une esthétique ou des idées défendues par le...
Il y a pas trop. Alors, au début, c'était vraiment un truc de mise en commun de moyens, pour le faire rendre plus pratique tout le truc de communication, de trouver des concerts, etc. Et du coup, au début, il y avait une esthétique assez claire parce que c'était que des musiciens issus de jazz à Tours, donc qui avaient un peu évolué ensemble musicalement et tout. Donc il y avait ce truc de base un peu qui était vraiment jazz.
Et free, quoi, c'était pas
free. Musique impro, jazz, quoi. Et après, ça s'est ouvert à d'autres trucs. Des musiciens, quand même, qui étaient aussi dans cette esthétique-là plutôt, mais qui ont fait après des groupes plutôt de pop, mais pop un peu libre toujours, avec quand même cet ancrage un peu qui est un peu présent dans tous les groupes quand même. Un peu quand même. Et donc, du coup, il n'y a pas d'enjeu esthétique vraiment, c'est vraiment... là maintenant, il y a quelqu'un qui travaille, Arnaud Fièvre, qui est administrateur du collectif, donc qui essaye de trouver un peu... monter des dossiers pour trouver de l'argent, la DRAC, le conseil régional, etc.
Oui, donc c'est vraiment ça, parce que nous, on en reçoit pas mal des collectifs, que ce soit Coax, légendaire Coax, c'est pionnier un petit peu dans cette histoire-là. Donc c'est vraiment la mise en commun de moyens pour trouver des concerts, pour élever ce que tu dis.
Puis de constituer une visibilité. Au départ, c'est quand même des groupes un peu de musique marginale, etc. Donc c'est bien de...
Ouais. Puis ça fait une petite communauté de musiciens aussi, c'est un truc de coordination, parce que finalement on se croise pas, les gens quand on joue plus ensemble, en fait on se croise pas forcément, il y a plein de musiciens qu'on croise pas parce qu'on n'a pas des groupes ensemble, donc là c'est des gens qui vont, on se voit souvent, on va au concert les uns des autres, on réfléchit ensemble, enfin il n'y a pas de direction esthétique, mais je pense de direction esthétique, pardon, mais je pense ça joue à comment les groupes fonctionnent, comment
vous fonctionnez en AG, il y a des histoires comme ça.
Ouais, il y a des réunions en AG.
Alors c'est peut-être le moment de citer les autres musiciens ou groupes du collectif.
Il y a Yacht Club dont fait partie Boris, il y a un groupe qui s'appelle Nour dont fait partie François qui est pas là, le bassiste, qui s'appelait avant Testy Granny. Il y a Air Brigitte qui est devenu Orion, il y a une création avec
l'étendue,
quoi. Mathieu Metzger aussi, et Alex. Du coup il y a Jogging qui est un duo batterie, clavier, chant.
Steak,
un trio maintenant assez folk.
Sololo.
Solo Thibaut Florent.
Thibaut Florent, guitariste.
Ah oui.
On va en oublier.
On va en oublier, il y en a une douzaine. Tournée Nadège. Un groupe qui s'appelle Baishi aussi, qui est avec Musician Coax aussi. Baishi, il y a Jean-Luc Capozzo aussi.
Ah, très bien,
Qui est un peu une forme étendue de. Enfin, qui est. Non, qui est
un, non, qui est un truc à trois trompettes avec Alan.
Alan Regardin.
Et.
Emery Cavis.
Voilà. Ah, super, Emery.
Ouais. Il y a le trio Vokuila, du coup, qui recommencera dans un, deux ans. Je pense qu'on a oublié.
C'est sûr.
Il y a une page internet.
Il y a une page internet.
Et alors, il y avait une initiative il y a quelques années, j'aimerais savoir si ça perdure, c'est le Collision Collective. C'est un collectif de collectifs, si bien compris. Est-ce que ça existe encore ? Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ?
Je crois qu'il n'y a rien de prévu, mais je pense qu'à mon avis, d'ici un ou deux ans, ça risque de. Je pense qu'il y a des collectifs qui vont relancer le truc.
C'était bien, C'était des rencontres dans chaque ville d'où était issu chacun des collectifs qui participaient à ce
truc. Il y avait 5 villes, 5 collectifs.
Ouais, voilà, donc il y a eu 5 événements sur l'année. Nous, il y en a eu un tour.
Après, je pense que maintenant, ce serait un peu plus compliqué parce qu'il y a, d'ailleurs, au moins 2 ou 3 fois plus de collectifs depuis 5 ans. Donc,
à l'époque, il n'y avait que ces collectifs-là.
Je pense qu'il n'y avait pas que ceux-là, mais en tout cas, ils se connaissaient. Je pense qu'il y a sûrement des gens qui ont pas participé, mais là, il y a beaucoup de collectifs.
Donc, là, il y a eu. Ça avait été relancé, l'idée, il y a 1 ou 2 ans. Ouais. Et il y avait en plus le tri collectif, musique. Enfin, tout de suite, il y avait plus de 11h11 aussi.
Oui, bien sûr.
À Paris déjà, maintenant il y a quand même plein de collectifs.
2035, puis
c'est un peu différent. Mais moi, ce qui m'avait intéressé dans cette histoire, j'avais lu que vous positionniez, enfin, cette initiative, Collision Collective, se positionnait par rapport à l'industrie musicale, l'industrie musicale déclinante. Qui s'obstine à placer des individus sur le devant de la scène. Donc vous allez contre ça et vous revendiquez ensemble de nouveaux moyens de diffusion, réinventant les lieux de concert, organisant leur propre distribution. Avez-vous, peut-être pas forcément au sein de cette initiative-là, mais peut-être tout simplement au sein de vos QI-là, ce genre d'idée, de pratique, de contester la...
Après, c'est qu'on est... de fait, on a commencé comme ça, de façon alternative, parce qu'on n'était pas... la naissance du groupe, elle n'est pas vraiment liée à un truc institutionnel. Ça s'est fait par amitié, et comme ça, à l'arrache... en faisant des petits concerts dans des petits lieux, en faisant des disques autoproduits. Ouais. Après, le groupe il développe quand même plutôt vers d'avoir un label qui est distribué, de chercher à tourner, d'avoir des subventions pour tourner. Donc je pense en tout cas, de fait, on vient plutôt d'un truc alternatif, mais qu'on essaye de continuer à faire la musique comme on a envie de la faire, mais d'être visible aussi dans d'autres lieux. Je pensais un peu par opposition au fait d'avoir un parcours strictement institutionnel, ou de sortir d'une école, faire des tremplins, gagner des prix, jouer que dans des festivals, où ça, c'est de toute façon, c'est pas notre parcours. Donc,
Et puis il y a toujours quand même un plaisir, une attirance quand même vers les petits festivals alternatifs ou des choses comme ça. Il y a les meilleurs concerts, les meilleurs souvenirs de concerts, c'est quand même dans des cadres vraiment festifs de ce type-là, quoi.
Après, il y a aussi plus de festivals comme Coutances, tu vois, on a joué, qui ont aussi des soirées comme ça, un peu club. Je pense que il y a aussi des festivals plus gros qui organisent des soirées comme ça, où il y a vraiment un concert peu teuf.
Effectivement, moi, je vous disais en antenne que je vous avais vu à Mulhouse, dans le cadre. Si vous étiez dans la programmation officielle.
Ça avait été décidé un peu au dernier moment de jouer dans la cour, justement pour être plus près des gens.
Et puis là, le dernier jour, dans un truc un peu plus festif. Capsule, c'est aussi le label sur lequel vous l'avez dit. Donc vous avez sorti vos 2 derniers albums. Et je voudrais savoir si économiquement, la sortie d'un disque, ça a encore du sens. Est-ce que c'est important pour un groupe maintenant de sortir un disque, du point de vue économique? Je pense pas.
Économique, non, c'est plus pour déjà pour nous, ça pose un truc, un répertoire qu'on a joué pendant 2-3 ans, de le fixer comme là, tu vois, on réécoute des vieux trucs, c'est de se dire qu'on a enregistré des morceaux tels qu'on les jouait à l'époque. Après, c'est un truc aussi pour un petit peu être un peu visible et que notre musique soit écoutée par des gens qui ne nous voient pas forcément en concert. Ouais. Après, non, on gagne pas d'argent sur les. On gagne pas d'argent sur les disques. Non. Ça a plutôt un coût de production. Ouais. Après, nous, comme en plus, on n'est pas dans un truc. On n'est pas dans une musique vraiment pour faire des clips, quoi. On n'a pas d'idée de scénario. Pour moi, personnellement, ça n'a pas trop de sens de faire des clips sur la musique qu'on joue. Donc pour l'instant c'est un peu les disques ou les captations live qui nous servent un peu de promo, parce que sinon je pense qu'un groupe qui ferait des clips il a pas forcément besoin de faire un disque, quoi.
D'accord, carrément, tiens, c'est marrant, j'ai pensé à ça.
Enfin, en termes de diffuser et tout, je pense
c'est une carte de visite en gros.
Je pense qu'un clip ça peut être plus efficace qu'un disque, mais
carrément.
Juste pour revenir par exemple ce que tu disais tout à l'heure, le truc festif, c'est aussi que je pense que par rapport au clivage dont on parlait, il y a peut-être plus de festivals qui de par rapport aux scènes jazz et tout, c'est peut-être moins quand, enfin, le fait qu'une musique soit dansante est peut-être moins vu comme un truc léger. Ah ça oui. peut être, enfin, moi je considère que ça peut être festif et dansant et ça demande, enfin, c'est sérieux aussi la démarche qui est derrière, le travail qui est derrière, c'est pas plus léger ou plus, ou moins profond qu'une musique qui serait plus difficile d'accès ou plus improvisée ou plus noise, j'en sais rien. Je pense c'est un petit peu moins. Voilà, hiérarchisé.
C'est clair, moi j'encourage les auditeurs à aller voir, puis même à écouter tout simplement, mais aussi à aller voir, c'est aussi intéressant de voir parce qu'on voit ce qui se passe, voir la mise en place qu'il y a dans votre musique particulièrement.
C'est quand même... ce soir.
Ouais. Ah bah ce soir, évidemment.
Ce soir, Café Paris, Café Paris, 558 rue Alarcon.
À 22h.
On va en reparler. Mais je voulais que vous nous disiez un petit mot sur ce dernier album. Est-ce qu'il y a eu un contexte particulier, des nouvelles idées? Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cet album, sorti en 2017, je crois maintenant, Combino Splinto. Et on écoutera un titre.
C'est le répertoire qu'on jouait à l'époque. On a enregistré en 3 ou 4 jours chez Mathieu Metzger à Poitiers. Et voilà, c'est un peu une photo du répertoire de l'époque, quoi.
Et alors, Seben, c'est ça,
on dit Seben One, ouais.
Ça veut rien dire?
C'est un style musical de Seben congolais, issu de la rumba congolaise. C'était un des premiers morceaux où on s'inspirait de cette rythmique.
Bah, je propose de l'écouter, Seben. Radio Libertaire, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée au groupe Electric Vocuila aujourd'hui. Alors Maxime, Boris, j'aimerais savoir, vous l'avez un petit peu évoqué, mais j'aimerais savoir dans quelle autre formation vous évoluez, si c'est le cas.
Alors moi j'ai, donc il y a le trio Vocuila, mais qui joue pas trop depuis 2-3 ans, qu'on va relancer l'année prochaine. Et j'ai un autre groupe qui s'appelle Oliba International, qui s'inspire pas mal aussi de musique d'Afrique de l'Est et malgache.
Ah ouais.
Qui est né en fanfare aussi, au début c'était une formation de rue, et puis on a arrêté de faire de la rue, maintenant c'est un groupe de scène, quoi.
Alors, ça veut dire, dans la rue, il faut forcément, il n'y a pas de guitare, donc?
Si, il y a de la guitare, ouais.
Amplifié,
ouais, on avait un petit système amplifié sur batterie, mais finalement on se retrouve, enfin c'est pareil, du coup les trucs de rue, on se retrouve souvent à faire de la déambulation, et puis du coup, là on a un système d'amplification un petit peu plus... fourni, et pour ne bien être bien installé au niveau du son, avoir un public devant nous, donc voilà.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Et je fais aussi du ténor dans un groupe d'afrobeat qui s'appelle Jumbo System, qui est basé à Tours.
D'accord. Et toi, Boris?
Alors moi j'ai donc Yacht Club, qui est dans le collectif Capsule aussi, qui est un groupe de rock un peu libre, enfin inspiré un peu par des groupes comme The Roof ou Mikachu and the Shapes, des choses comme ça. Et puis Ranko, qui est un groupe de post-punk plus, avec trois guitares, boîte à rythme
et chant,
ouais. Post-punk rock, c'est pareil, c'est assez ouvert, on sait pas, y a influencé par plusieurs choses, quoi. Et puis voilà, je joue dans un groupe de reprise aussi.
Ah oui.
Ouais. Et puis un trio qui s'appelle Kasoto, qui est plus free no wave, un peu inspiré par des groupes comme DNA, des choses comme vraiment cette scène là
ah ok ouais.
Glenn Branca, choses comme ça.
Ah oui, c'est marrant, parce que quand on entend ton jeu de guitare au sein de Electric Vocuila, on n'imagine pas des trucs DNA, c'est Artolinse, donc
ouais. Ah, bah ouais, moi j'aime bien tous ces trucs là après, enfin
bah, il est bridé, il est très bridé dans Electric Vocuila, donc
non, mais il y a des trucs, il y a des ponts, parce que tu vois, il y a aussi une autre mouture d'Electric Vocuila où on faisait que des trucs du prime time, par exemple.
Ouais. On a fait le répertoire d'Ornette pendant 2 ans, quoi.
Ouais, de free funk avec 2 guitares, 2 batteries, 2 basses, machin. Oui. Et en fait, tu vois, enfin les ponts, on peut les créer un peu où on veut, quoi. En fait. Tu vois, dans les trucs de no wave, il y a beaucoup de.
Non, mais tout ça, c'est concret. De toute façon, le free funk d'Ornette et James Chance, qui faisaient partie de la scène no wave, donc c'est quand même.
Alors tu parlais, il est bridé, mais alors, on a dit que tu étais compositeur, Maxime.
Ouais.
Mais tu composes tous les arrangements, tout?
Non, j'écris plutôt des squelettes, quoi. Enfin, les thèmes de sax, où il y a quelques morceaux où c'est très écrit, où il y a des parties de guitare qui sont très écrites. Mais souvent c'est plus des trames avec une idée de forme de morceau, les parties que moi je vais jouer, si c'est au sax en général c'est les thèmes, donc après c'est quelques pistes de lignes de basse et tout, mais en gros sur une bonne partie de répertoire chacun fait un peu ses lignes autour des thèmes, quoi.
Ouais.
Après il y a 2-3 trucs très écrits là, sur donc là on a enregistré il y a quelques mois, on ressort un disque au printemps 2020.
Ah bah voilà, tu anticipes ma question.
Donc là, il y aura il y a 3-4 morceaux qui sont plus écrits, et puis il y a 2-3 morceaux dans une veine très malgache aussi, des trucs, c'est un peu les mêmes esthétiques que le dernier disque, mais plus resserré, je dirais, autour de... C'est un petit peu plus écrit, il y a moins les trucs improvisés.
Il y a à nouveau un changement de direction ou...
Bah pas un changement, mais ça se resserre autour d'un type d'écriture et de forme de morceaux, disons. Les morceaux un peu avec des progressions, des changements de tempo, on travaille pas mal ça. Et puis du coup j'anticipe aussi ta prochaine question. On doit aller à Madagascar en 2020 pour jouer avec des musiciens de la région de Tuléar, des musiciens de Sapik, pour faire une création avec eux, faire une tournée là-bas et ensuite revenir en France.
Mais t'as lu mes questions, j'étais aux toilettes ou quoi? Parce qu'effectivement, je voulais savoir s'il y a d'autres idées de création, d'extension du...
Bah là, ce serait ça, du coup, comme vraiment il y a une bonne partie du répertoire qui est de plus en plus influencée par le Tsapik, qu'on cherche pas mal autour de ça, donc... ouais, on a envie de, d'aller jouer ce, notre musique là-bas et de jouer avec des musiciens qui, traditionnels de là-bas. Quoi.
Alors j'espère que vous savez vos, vos dates de concert par cœur, parce que ce sera ma dernière question. Mais avant, je voulais vous entendre, parce que ce soir, vous allez jouer au Petit Balcon.
Non. Non. Au Café de Paris.
Au Café de Paris, mais pourquoi j'ai mis un petit balcon hein, mais n'importe quoi. Café de Paris, bien sûr. Voilà, Paris. Ouais. C'est parce qu'historiquement, il y a des liens.
Ouais, ouais, carrément.
oui, au Café de Paris, donc c'est...
Oberkampf.
Ah, ouais. À
22h.
Ménilmontant. Et avec vous Louis serez Minus. Le seul groupe, non?
Non, il y a Louis Minus.
Ah, mais bien sûr, Maxime.
C'est un duo avec Maxime Petit.
Et,
puis,
et Adrien.
Il s'appelle Adrien, quelque
ah,
chose,
ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, c'est génial.
Donc, eux, c'est 21h, et puis nous, après, 22h, 22h30.
Faut absolument voir, donc... Deux bonnes raisons, deux excellentes raisons d'aller au, au Café de Paris ce soir. Et d'autant que ça, ça se passe dans une cave et qu'on présume...
Parce que la salle n'est pas encore faite, parce qu'ils ont une, vont avoir une grande salle en haut, une vraie salle de concert.
Ah d'accord, oui, mais je me suis dit, dans la cave, là, ça peut être très bien avec,
ouais,
la,
avec la chaleur.
Avec la chaleur, mais bon, avec la, je crois que vous allez mettre la chaleur. Hein,
ouais.
Ça va vite danser. Non, mais c'est vrai que les caves, là, c'est, ouais, c'est assez appréciable par le temps qu'il fait. Bon, ouais, donc alors, Maxime, tu as eu le temps de consulter.
Donc, tout à fait. Donc, on joue ce soir au Café de Paris. Demain, on joue au Doc, à Orsel, près de Caen. Ensuite cet été on joue pas beaucoup, mais on joue le 2 août à Tournord, à Jazz au Jardin, festival programmé par le Capsule Collectif. Ensuite on joue au Héron Carré, c'est une guinguette à Angers. Ensuite on joue au Balkanique à Tours, au Luisant à Germigny-l'Exan en septembre, 6 et 7 septembre. Ouais. Et ensuite on doit jouer en Asie en décembre, mais on peut pas en dire plus pour l'instant.
En Asie ?
Ouais, on va jouer en Asie.
Ouais. Oh, vous avez... D'accord, des Français qui font de la musique africaine en Asie.
Ouais.
Alors, ça nous passionne, ça. Ouais, c'est... Dans notre émission, on est un peu comme ça. Bon, bah super, bah, merci beaucoup à vous d'être venus.
Et après, on jouera partout au ouais, printemps prochain, jusqu'en 70.
Il y aura plein de dates, mars, avril, mai, juin.
Ouais.
Ah, super, super. Ouais. Ah, bah écoute, et bah, je pourrais enfin venir vous voir avec plaisir. En 2020, quand vous aurez ouais, sorti votre. Et alors là, c'est pas très malin parce qu'on va écouter un extrait de votre premier album, donc on revient au départ. Je ne sais plus le titre du morceau. Bah, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup.
Bah, merci à toi
d'être venu. Et puis à ce soir pour ceux
Café
qui pourront
au Café de Paris.
Au Café de Paris.
Rue Oberkampf.
Je vous laisse conclure.
Merci.
Merci beaucoup.
Et ben bravo Christophe pour très belle interview. Vous le voyez pas, mais c'est vraiment très sportif ouais, ce travail, parce qu'il y a des allers-retours à faire entre le micro d'interview et le micro pour passer les morceaux. Donc bravo ouais, pour cette performance.
Bah merci beaucoup à vous. Et la semaine prochaine, alors nous irons dans la musicologie, puisque nous recevrons Mathieu Saladin. C'est l'ami Grégoire qui s'est chargé de cet entretien savant avec Mathieu Saladin. Merci encore à vous, Electric Vocuila. À ce soir au Café de Paris et à bientôt sinon. Salut.
Salut.